Corse, comme Franck me demandait, sur les reliefs, on pourrait avoir une petite averse orageuse. On fera qu'il évite les reliefs.
Merci Marina. On a ce joli message d'Hélène qui est sur la route pour aller bosser. Magnifique aube dégagée avec un petit 7 degrés dans le Perche. Excellent début de journée à tous. Il est 6h sur RTL.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et on accueille maintenant Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de votre journal, Jérusalem sous les bombes cette nuit.
3 morts et au moins 74 blessés, c'est le bilan de la riposte iranienne aux frappes israéliennes. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre le sommet du G7 au Canada. À suivre également le Big Bang dans le CAC 40. Le patron de Renault s'en va, a priori pour prendre les rênes de Kering. Et puis, ces commerçants qui se transforment en distributeurs de billets, si on peut dire.
Après votre journal, Tom Lefèvre, vous allez en entendre parler ce matin.
Le plus grand paquebot de croisière au monde s'apprête à prendre la mer. 40 restaurants, une patinoire et jusqu'à 10 000 personnes à bord.
A tout à l'heure.
RTL Matin.
Et donc, pour la quatrième nuit consécutive, Israël frappe l'Iran et l'Iran riposte.
L'État hébreu a bombardé Téhéran, la ville sainte de Machad dans le nord-ouest et des installations militaires, des sites de missiles sol-sol, précise l'armée. Réponse quasi immédiate. À l'aube, de fortes détonations ont été entendues à Jérusalem, à Tel Aviv. L'armée évoque une nouvelle salve de missiles lancée depuis l'Iran. La défense antiaérienne tente de les intercepter. Ces frappes iraniennes ont fait 13 morts depuis vendredi en Israël. Côté iranien, les attaques israéliennes ont fait au moins 224 morts, dont plusieurs hauts responsables du régime. Hier, c'est le chef du renseignement des gardiens de la Révolution qui a été tué. Pour les Iraniens de France, la situation est très angoissante. Comme pour cette femme dont la famille habite à la frontière irakienne, elle a très peu de nouvelles depuis 3 jours.
C'est vraiment très difficile de leur contacter. On ne peut pas s'appeler, il n'y a pas WhatsApp. Et l'Internet, c'est déjà limité. C'est juste par message, par exemple, on est bien, ne t'inquiète pas, ça a été tout. Ils sont vraiment inquiets car ils sont proches vraiment des endroits qui sont sensibles. Il n'y a pas d'abri et je sais qu'ils ont en galère pour maintenir leur alimentation alors qu'on a des gens qui sont malades dans la famille. Les médicaments, bien sûr, ils ont été sanctionnés. C'est très inquiétant. On est tous choqués. C'est nous, le peuple, qui va payer le prix de cette guerre dans la région.
Un témoignage de cette Iranienne de France au micro RTL de Lise Tavlé. Nous sommes maintenant en ligne en direct avec Éléonore Veil, en direct de Tel Aviv pour RTL. Bonjour.
Bonjour.
Éléonore, vous avez entendu donc à l'aube ce matin ces fortes détonations à Tel Aviv.
Oui, exactement. Vers 4h du matin, les sirènes ont donc à nouveau retenti à travers le pays. Pour la troisième nuit, les habitants ont dû se précipiter en pyjama vers les abris. Mais cette fois, il faut dire que les détonations étaient particulièrement intenses, hein, jusqu'à faire trembler les murs. Le bilan est d'ailleurs assez lourd ce matin. 3 morts à Petah Tikva, cette ville en banlieue de Tel Aviv. On parle également de 80 blessés, hein, selon les services de secours. Un chiffre encore provisoire qui pourrait évoluer dans la journée. Et puis un peu plus tôt dans la nuit, c'est la ville de Haïfa au nord qui a été frappée. Plusieurs blessés là aussi, d'importants dégâts. On sait que l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles balistiques. Certaines ont causé des impacts directs, déclenché des incendies et provoqué des scènes de panique à travers le pays. Le pays qui est sur le qui-vive. Les regards sont ce matin rivés aux alertes et les abris sont redevenus un réflexe quotidien ici.
Merci Éléonore Veil en direct de Tel Aviv pour RTL. La France fait savoir qu'elle n'est pas impliquée dans les frappes israéliennes car elle n'a pas été sollicitée, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron au Groenland hier, au Canada aujourd'hui pour le sommet du G7 à Calgary, sommet sous tension forcément. Donald Trump vient tout juste d'arriver. Avant de gagner le Canada, Donald Trump a ordonné hier de nouvelles opérations anti-migrants à Los Angeles, mais aussi à Chicago et à New York. Le président américain souhaite le plus grand programme d'expulsion massive de l'histoire dans ces villes qui sont dirigées, selon lui, par des démocrates d'extrême gauche à l'esprit malade.
RTL, il est 6h03. C'est un petit séisme dans le monde de l'automobile. Après 5 années à la tête de Renault, Luca de Meo rend les clés.
Le constructeur l'a annoncé hier soir en indiquant simplement que le patron va relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile. Et de fait, selon le Figaro, il va prendre les rênes du groupe de luxe Kering. C'est sans doute le transfert de l'année au sein du CAC 40. Et pour Renault, c'est quand même une perte. Demeo laisse un bon bilan, Christophe Bourou.
Lorsque Luca De Meo arrive chez Renault en 2020, l'entreprise est encore sous le choc de l'arrestation de Carlos Ghosn 2 ans plus tôt. Cet Italien, volontiers charmeur, as du marketing, passé par Fiat et Seat, va vite remettre en ordre de marche le constructeur avec son projet baptisé Renaultution, avec une avalanche de produits dont le retour de la R5 en version électrique. Côté finance, l'Italien réussit la remontada avec même des records. L'an dernier, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi progressé de 7,4%. Mais malgré ce bilan flatteur, Luca De Meo n'a toutefois pas réussi à faire grandir le groupe, encore absent des deux plus gros marchés du monde, à savoir la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui âgé de 58 ans, Luca De Meo quittera son poste le 15 juillet prochain, pressenti pour succéder à François-Henri Pinault à la tête du géant du luxe Kering.
Christophe Bourou, spécialiste auto d'RTL. Le bac, ça commence aujourd'hui pour les terminales générales et technologiques avec la terrible épreuve de philo. Les sujets seront connus vers 9h du matin. Deux fusillades ont eu lieu ce week-end dans des camps de migrants autour de Dunkerque. Un homme est d'ailleurs décédé hier soir. Il s'agit vraisemblablement de règlement de compte entre passeurs et c'est dans ce contexte que s'ouvre un procès à Lille. 10 passeurs présumés, essentiellement des Afghans, comparaissent pour homicide et blessures involontaires et aide au séjour irrégulier. Ils seraient impliqués dans le naufrage mortel de plusieurs églises exilé sur la Manche fin 2022.
Vous l'avez sans doute remarqué, il y a de moins en moins de DAB en France. Ce sont les distributeurs automatiques de billets, mais on peut maintenant trouver du liquide ailleurs.
Oui, les commerçants proposent des retraits d'argent. Plus de 27 000 points de vente sont désormais accessibles aux clients qui ont la même banque que le commerçant et progressivement, ça va être étendu à tous les détenteurs de cartes bleues et cela sans frais. Reportage RTL de Christian Panvert.
Au centre commercial des Grands Champs, le distributeur automatique de billets a été supprimé. Alors c'est le Tabac Journaux qui a pris le relais. Rachel Pécat.
Nous, on est partenaire avec le Crédit Agricole, ce qui s'appelle Relais CA. Donc les gens, ils peuvent retirer 20 euros à 100 euros par jour, qui est sans frais, mais nous faisons aussi le cashback. C'est jusqu'à 60 euros par jour. Donc ça, c'est pour un minimum d'achat d'un euro. Ils peuvent retirer avec n'importe quelle banque, avec un euro de frais supplémentaires de commission.
Elle réalise entre 20 et 30 transactions quotidiennes. Les commerçants voisins qui ne prennent pas la carte bleue apprécie. C'est le cas de Karim, le coiffeur barbier.
C'est mieux que d'aller courir dans une banque où ça veut... on n'est même pas sûr que le distributeur y marche, puisqu'il y en a de moins en moins, comme partout, et ils ne sont pas tout prêts, donc ça évite les déplacements pour rien, puis c'est un bon dépannage.
Johan vient de faire un retrait de 40 euros.
Comme ça engendre des frais de payer par carte pour les commerçants. Bah c'est vrai que des paiements en espèces, c'est toujours intéressant, surtout pour des petits montants comme en boulangerie ou autre. C'est toujours bien quoi.
En 2026, il sera possible de retirer sans frais, quel que soit l'établissement bancaire. Mais il faudra entre-temps que les commerces et les banques trouvent un accord.
Christian Panvert à Tours pour RTL.
Le football, Isabelle, pour son premier match en Coupe du Monde des clubs, le PSG a tenu son rang de champion d'Europe.
Victoire 4-0 face à l'Atlético Madrid sous une chaleur accablante. On est en Californie, le match avait lieu à midi en plein soleil. En judo, 2 nouvelles médailles hier pour la France aux Mondiaux à Budapest et notamment l'or pour Joanne Benjamin Gaba en moins de 73 kilos. Chez les filles, Sarah Léonie Sizik a décroché le bronze en moins de 57 kilos. Ça fait 3 médailles pour les tricolores. Et 4 au championnat d'Europe d'escrime, cette fois dont 3 en or avec le titre de Sarah Noutcha hier au sabre. Et puis notez ce nouveau record du monde pour Armand Duplantis. Devant son public à Stockholm, le perchiste suédois a franchi la barre des 6,28 m. C'est la 12e fois qu'il bat son propre record et il n'est plus qu'à 2 cm de son objectif de 6,30 m.
Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Compiègne, départ 18h.
Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 10, le 5, le 9, le 6, l'As et le 2. 11, 10, 5, 9, 6, As, 2. L'outsider d'RTL, c'est le 6, Roi de l'air. Et attention, dans cette course, le 12, Indian Sunset est non partant.
C'est noté. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. À suivre votre rendez-vous pour découvrir l'info avant les autres. Ce matin, Tom Lefebvre, une ville sur l'eau.
Ah oui, vous n'allez pas passer à côté du nouveau paquebot de croisière le plus grand du monde.
Et puis au cœur de l'actu, l'escalade militaire entre l'Iran et Israël qui se poursuit ce matin. À l'instant, l'Iran promet des frappes plus dévastatrices contre les cibles vitales d'Israël. On y revient avec notre invité.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Tout savoir sur...
Le secteur aérien représente près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Total Energy travaille depuis plus de 10 ans à leur réduction. Isabelle Patrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice France de Total Energy. Quelles initiatives proposez-vous?
Chez Total Energy, on investit dans la production et la distribution de SAF.
C'est-à-dire?
SAF, c'est un acronyme anglais qui signifie carburant d'aviation durable. En fait, on le produit déjà dans nos raffineries en Europe, notamment à partir d'huile de cuisson usagée. Mm-hmm. Et ensuite, on l'incorpore dans les carburants aériens. Ça permet de réduire progressivement progressivement les émissions de CO2. Alors, vos défis aujourd'hui, c'est d'être présent sur toute la chaîne au service des acteurs de l'aviation. Les filières d'approvisionnement de ces fameux déchets, la transformation de nos usines pour cette production, la formation de nos collaborateurs à ces nouveaux métiers.
Avec comme ambition pour Total Energy,
notre ambition, c'est de devenir un producteur majeur de SAF pour accompagner nos clients du secteur aérien, avec 1,5 million de tonnes par an en 2030.
Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur totalenergy.com, rubrique Transition énergétique.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RTL.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 heures option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais à avancer. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur rocéclair.com.
Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les bénévoles de la SNSM veillent sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons qu'ils accomplissent leur mission. Depuis 200 ans, et pour longtemps, donner à terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
Oh, hâte de partir cet été, mais je crains les galères en voiture.
Tu veux rouler tranquille ? Choisis les pneus Michelin, conçus pour assurer ta sécurité tout au long de leur durée de vie. T'en profiteras même après les vacances.
Tiens, du 2 juin au 27 juillet, il y a une promo sur les pneus Michelin. Jusqu'à 120 euros TTC remboursés pour l'achat de 4 pneus voiture. J'achète ?
Retrouvez les modalités de l'offre sur michelin.fr, rubrique promo.
RTL Matin.
Vous allez en entendre parler.
Avec vous, Tom Lefebvre, tous les matins, vous dénichez l'info qui va faire parler. Alors, cap ce matin sur un géant des mers, un nouveau paquebot de croisière qui ne passe pas inaperçu.
Ouais. C'est votre truc, la croisière, vous, Jérôme, Marina, vous en avez déjà fait ?
Pas du tout. Moi, non. Pas du tout ça.
Ah, bah, vous allez quand même entendre parler de ce monstre des mers qui s'apprête à lever l'ancre. Il s'appelle le Star of the Seas. C'est de la compagnie américaine Royal Caribbean. Ah ouais, je l'ai travaillé tout le week-end. Son premier voyage est prévu au mois d'août, au départ de la Floride, direction les Bahamas. Et c'est un véritable mastodonte flottant. 365 mètres de long, c'est plus que 3 terrains de foot, hein, de long, pour 249 000 tonnes et jusqu'à 10 000 passagers à bord, équipage compris.
Bon, c'est une vraie ville sur l'eau, hein.
Oui, à bord, 2800 cabines, une quarantaine de bars et de restaurants, plusieurs piscines, un parc aquatique, une patinoire, un casino, même des salles de spectacle. En fait, on n'attend plus vraiment le port d'escale, tout se passe sur le bateau. D'ailleurs, c'est devenu une stratégie assumée par les compagnies de construire des navires qui deviennent eux-mêmes la destination, même si derrière cette surenchère de confort et de gigantisme, il y a une réalité bien moins reluisante.
Oui, pour l'environnement, c'est pas terrible, hein.
Non, c'est vrai que ces méga paquebots sont pointés du doigt pour leur empreinte environnementale, pollution de l'air, consommation de carburant lourd, impact sur la faune marine. Alors, certaines compagnies affichent leurs efforts avec l'usage, par exemple, de gaz naturel liquéfié, le GNL. À l'échelle mondiale, seule une quinzaine de navires utilisent réellement ce carburant sur les 350 existants. C'est pas beaucoup. Là, on est donc sur l'égalisation du plus gros paquebot de croisière au monde, pour l'instant, puisque d'autres compagnies comme MSC ou Carnival ont déjà commandé de nouveaux paquebots similaires qui devraient être livrés dans les prochaines années.
Et tout ça, ça continue parce que ça marche.
Mais ça marche très bien, Jérôme. Le secteur est en pleine croissance. Près de 35 millions de croisiéristes dans le monde l'année dernière, en hausse de 9% sur un an. Les compagnies misent donc sur l'effet waouh, l'impression d'une ville flottante pour attirer toujours plus de monde. Ce qui pose d'ailleurs problème aux escales. Certaines destinations comme Santorin en Grèce, les Baléares ou encore Venise commencent à dire stop, les infrastructures ne suivent pas. Santorin par exemple, c'est 15 000 habitants et plus d'1 300 000 croisiéristes chaque année. Résultat, la Grèce va désormais faire payer une taxe de 20 euros par passager. Alors dans quelques semaines, le Star of the Seas va prendre la mer, mais derrière lui, c'est un modèle économique qui avance à toute vitesse, sans forcément mesurer les traces qu'il laisse derrière.
Merci beaucoup, Tom Lefebvre. Vous allez en entendre parler tous les jours sur RTL.
RTL.
RTL, au cœur de l'actu.
À la une ce matin, évidemment, cette quatrième nuit de frappe entre Israël et l'Iran. Il y a eu des bombardements tôt ce matin à Jérusalem, à Tel Aviv. Il y a quelques instants, les services de secours israéliens ont fait état de 3 morts et 74 blessés. Bonjour, colonel Pierre de Jong.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Ancien aide de camp de deux présidents de la République, cofondateur de l'Institut Témis, spécialisé en conseil de sécurité et de défense. Le but affiché d'Israël, c'est de détruire les capacités nucléaires iraniennes. Question simple, est-ce que c'est possible? Hier soir, Benjamin Netanyahou dit qu'Israël avait détruit la principale installation du site nucléaire de Natanz. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que ce site de production nucléaire a été éradiqué?
Alors, bien évidemment, ce site a été complètement détruit. Le problème, c'est que les Iraniens, depuis de nombreuses années, ont enterré. Ils prévoyaient quelque part, encore une fois, la possibilité d'être attaqués par Israël, donc d'avoir leurs installations détruites. Donc, en fait, ils ont enterré leur système. Donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'Israël a détruit en surface tout le système, je dirais, de production d'armement nucléaire, en tout cas, de retraitement de l'uranium. Ça, c'est un point extrêmement important. Par contre, maintenant...
Donc, l'arsenal Israël, nucléaire n'est pas détruit.
Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'arsenal nucléaire. Il y a seulement des usines. Il y a les usines de traitement, comment dire, de l'uranium. Après, vous avez des centrales nucléaires. Vous avez un système qui se met en place. Mais aujourd'hui, vous n'avez théoriquement pas d'armes. Même si Israël considère qu'il y a en gros 9 armes qui étaient disponibles dans les jours qui allaient venir. Ceci a justifié d'ailleurs l'action d'Israël. Donc encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, Israël part pour une opération de long terme, quelque part. Puisqu'aujourd'hui, pour éradiquer totalement, en tout cas pour limiter au maximum la possibilité pour l'Iran d'avoir l'armement nucléaire, il faut du temps, il faut du matériel, il faut des moyens.
Combien de temps?
Ben, c'est tout le problème, parce qu'encore une fois, je pense que le système de renseignement israélien est sur les dents, comme on dit. C'est qu'en fait, ils vérifient tout ça, donc ça peut prendre des semaines. Et moi, je pense qu'on peut avoir un résultat dans les semaines, voire dans les mois qui viennent.
L'opération prendra autant de jours que nécessaire, c'est ce qu'avait dit Benjamin Netanyahou vendredi matin. Il avait dit la même chose en lançant l'opération après les attaques du 7 octobre 2023. Le but est d'anéantir le Hamas. Ça fait un an et demi, on y est encore. On est parti sur quelque chose d'aussi long là?
Oui, c'est probable, parce que les Iraniens se préparaient à une attaque d'Israël depuis de nombreuses années, et ils ont fait un effort sur l'armement à longue portée, c'est-à-dire sur les missiles. Pourquoi ils travaillaient sur les missiles? Parce qu'ils préparaient une arme, et pour lancer un armement nucléaire miniaturisé, je dirais à 1000 ou à 2000 kilomètres, il faut avoir un missile. Donc les Iraniens sont dotés, ils ont des stocks de missiles extrêmement importants. On parle de 10 000 missiles, ce sont des chiffres absolument considérables. Alors de toute portée, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ils ont une artillerie de longue portée qui est extrêmement efficace, puisque aujourd'hui, ils arrivent à percer en saturant l'espace, le ciel israélien, ils arrivent à saturer et donc à percer quand même le dôme de fer. Oui. Mais évidemment, avant de détruire ou avant de ne plus avoir de missiles, il va se passer un certain temps. Donc on voit que pour les deux protagonistes, il y a une espèce de course au temps. C'est qu'en fait, le premier des deux qui aura un problème de stock et de matériel, eh ben, il dira pouce. Aujourd'hui, on peut considérer qu'Israël est plutôt dans une situation favorable.
Qui peut tenir le plus longtemps? Israël, sur le papier, avec une armée moderne, alors que l'Iran a une armée obsolète, pour parler vite.
Oui, on va dire ça comme ça, évidemment. Et puis non seulement ça, mais je pense que Israël a un cadre politique, un cadre diplomatique qui est beaucoup plus performant, dans le sens où les États-Unis sont derrière Israël, et on peut considérer, on le saura aujourd'hui avec le G7 au Canada, on peut considérer que la communauté internationale est derrière Israël dans ce cadre-là. Donc encore une fois, le soutien apporté par la communauté internationale à Israël est extrêmement fort, et donc ça donne un avantage énorme à Israël, évidemment.
Donald Trump n'exclut pas justement une implication américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui pourrait pousser les États-Unis à entrer dans ce conflit? Et comment le ferait-il?
Mais d'abord, c'est la dissuasion, parce que vous savez que les Américains sont très présents au Moyen-Orient, avec des bases au Qatar et avec la 5e flotte. Donc encore une fois, je pense que les Américains préviennent les Iraniens, ou les Houthis, parce que c'est un petit peu les proxys des Iraniens, de surtout d'éviter d'attaquer le moindre site ou la moindre position américaine. Donc ça, je pense que c'est une annonce de dissuasion. Autrement, je pense que les Américains vont être relativement discrets, ils vont communiquer, mais ils vont être discrets. Par contre, les Américains ont également des proxys, avec la Jordanie et avec l'Arabie Saoudite. Donc vous avez deux systèmes qui, enfin vous avez deux pays qui aident ou concrètement qui sont aujourd'hui en appui quelque part d'Israël.
Pour revenir sur la force de l'armée iranienne, quel est le plus gros atout de cette armée aujourd'hui? Ce sont les missiles intercontinentaux, c'est ça?
Ben, ils ont deux atouts. Le premier, d'abord, sont ces missiles intercontinentaux qui ont des portées pas très importantes, hein, de l'ordre de 2 ou 3 000 km. Ça, c'est le premier point. Mais deux, surtout, la force de l'Iran, c'est les, comment dire, c'est les gardiens de la révolution. C'est un système qui est autocratique et qui tient la population. Donc, aujourd'hui, vous avez un système extrêmement lourd, extrêmement dur, extrêmement ferme, extrêmement, je dirais, non démocratique, pour faire court. Et donc, ça donne un avantage énorme dans les décisions, dans les modes d'action, etc. Donc, encore une fois, c'est un pays qui est puissant, qui est large, 90 millions d'habitants. Donc c'est pas rien. Donc c'est vrai qu'Israël a fort à faire avant de traiter définitivement cette question iranienne.
Merci beaucoup, colonel Pierre de Jong, expert militaire je le rappelle, ancien aide de camp de deux présidents de la République. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci
en direct
beaucoup.
Sur RTL. Bonne journée à vous.
Au revoir.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Dans l'actualité également ce matin, ce changement de pilote en vue chez Renault. Le patron du groupe depuis 5 ans, Luca de Meo, quitte ses fonctions. Le dirigeant de 58 ans part pour le groupe Kering du milliardaire François-Henri Pinault, qui comprend notamment les marques Yves Saint-Laurent et Gucci. À l'agenda aujourd'hui, c'est la philo pour les candidats au bac général et technologique. Ils sont plus de 530 000 à passer l'épreuve. C'est de 8h à midi. Et puis, au programme également, le coup d'envoi du Salon du Bourget, le rendez-vous international des professionnels de l'air et de l'espace. C'est jusqu'à dimanche prochain, 2500 exposants, 48 pays représentés.
Laissez-vous tenter, première.
On accueille Isabelle Morini-Bosque, bonjour.
Bonjour tout le monde.
C'est un petit événement aujourd'hui, c'est le démarrage du nouveau feuilleton quotidien de TF1, ça s'appelle Tout pour la lumière.
Absolument, 6 décors naturels, 8 décors studio, 25 auteurs, 140 techniciens, 50 comédiens danseurs, c'est le 5e feuilleton quotidien français contemporain. Ça fera 6 dès le 30 juin avec M6. Quand je pense qu'à la création du premier, Plus belle la vie en 2004, on s'est dit ça ne durera pas, on n'est pas aux États-Unis, ça ne marchera pas. Or, ça ne s'est arrêté que pour mieux passer sur TF1 après donc 18 ans sur la 3, sans parler de la rediff de la saga sur TFX. Ont ensuite été créés dans la foulée 3 feuilletons, Ainsi grand soleil, Demain nous appartient, Ici tout commence, sur l'air de Va y avoir des morts, et c'est vrai que le milieu doutait de leur espérance de vie. Or, ils ont tous trouvé leur public avec des variations saisonnières. Tout pour la lumière, le quotidien d'une école de danse et de chant à La Ciotat, et donc le 5e à 18h ce soir, après lancement vendredi sur Netflix. Voici le générique interprété par les jeunes héros.
Vivre chaque moment comme le dernier.
Sous-moi tous les fils braqués. Et dans la gueule du loup se lancer.
Je ne laisserai pas mon tour, je ne laisserai pas ma chance. Question de vie ou de mort.
Et tout pour la lumière. Je veux pas vivre ma vie.
Voilà, tout pour la lumière. C'est primordial, un générique de feuilleton.
Il y a un petit côté Starmania.
Oui, puis il y a une réserve de tubes là-dedans. C'est d'où l'intérêt de le confier à une vedette, le générique. Par exemple, souvenez-vous, Gims avec Ici tout commence, 18h30 sur la Une.
Et je crois que tout va bien jusqu'ici.
J'adore. Et qui suit Gims avec un autre tube à 19h10, Vianney, parce que demain nous appartient.
Je m'en remets à nos lendemains.
Alors, il en a fait un tube.
Et Isabelle, le générique de Nouveau Jour, le futur feuilleton quotidien de M6, vous l'avez entendu ou pas?
Et comment? Je l'ai même écouté. Il est lui aussi confié à une forte personnalité. Oshi, voici un échantillon de ce que vous entendrez tout l'été, donc à partir du 30 juin, 1h35 sur M6.
Les réponses que tu cherches se trouvent dans ton écho. Si tu tombes, sache que dès que tu te relèves, tes bleus traperont le ciel, alors regarde en haut. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé la main.
Qu'est-ce qu'il dit de tous ces génériques, le musicologue maison?
Le musicologue de rien du tout, oui, il a beaucoup bon le premier qu'on a entendu. On aime beaucoup aussi dans l'émission. Voilà.
Et puisqu'on est sur M6, restons sur M6, donc rendez-vous le 30 juin. Là, restons sur M6 avec le 16e et dernier épisode de quoi? Eh bien, de la saison 9 de Mariée au premier regard. Moi, je suis absolument fascinée par le bon sens des conseillères sexologues du programme. Écoutez par exemple le dialogue entre la conseillère conjugale Estelle Dossin et Marina, une trentenaire très sympathique comme vous Marina, très jolie comme vous Marina, mais elle, trop sensible au physique de son mari tout neuf. Il est très beau, à un détail près pour elle, il est chauve. Et là, pour elle, il s'en fout un cheveu.
Le mariage, c'est pas un rancard. Il faut avoir une vision à long terme. Les facteurs physiques vont évoluer dans le temps. Peut-être que vous aimez les hommes avec des cheveux. Peut-être que l'homme que vous rencontrez aujourd'hui n'en aura pas dans quelques années.
Ça, je suis d'accord.
Se priver d'une compatibilité comme la vôtre pour un critère physique évolutif, c'est quand même vraiment dommage.
Merci beaucoup Isabelle.
Bon sens là-dedans.
Ah oui, très très bien. Et puis on a eu beaucoup de musique ce matin avec vous. Merci Isabelle, bonne journée.
Je vous en prie.
Laissez-vous tenter, première.
Voici un extrait de vos grosses têtes en musique, ça continue avec un hommage à Brian Wilson, le cofondateur des Beach Boys qui nous a quittés la semaine dernière.
De qui Mike Love était-il le cousin?
Pardon. Brian Wilson?
Mais comment vous savez ça? Bah,
les Beach Boys.
Eh oui, wow. C'est une bonne réponse. Brian Wilson vient de nous quitter. Il avait créé le groupe des Beach Boys avec ses frères, effectivement, Carl et Dennis Wilson, mais aussi leur cousin, qui lui s'appelait Mike Love. C'était pourtant plus difficile avec le nom du cousin, mais même le nom du cousin, vous connaissez.
Oh non, le nom du cousin, non, mais je le sentais bien, là.
Pardon, j'ai une petite question.
Oui.
Est-ce que l'émission, elle se finit plus tôt, le fait qu'il soit là, lui?
Bon, on va voir.
Oh. RTL.
Alors, monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais
le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir. Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Allopneu.com.
Vos pneus doivent être remplacés, mais le faire en ligne, moi, vous savez pas trop, hein. Sur allopneu.com, rien de plus facile, même la toute première fois. Je rentre mon immatriculation, je valide mes pneus, je prends rendez-vous pour le montage dans l'un des 6000 garages partenaires ou directement à mon domicile, et hop, c'est fait.
Et pour votre première fois, découvrez la marque Vredestein, les pneus haute performance au meilleur rapport qualité-prix.
Allopneu.com.
Si simple de faire changer ses pneus. Mission décarbonation avec EDF.
Rendez-vous tout à l'heure dans Mission décarbonation. Nous recevrons Bettina Lavaux, responsable solutions énergétiques pour les entreprises chez EDF.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée!
Bah moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
RTL Matin. Place à des vacances sans nuages avec Homer. 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com.
Homer.
Marina, vous avez dit il fait chaud ce matin dans le sud-est et là on a une température élevée, 29 degrés à Calvi là maintenant.
Ouais, 29,2 degrés même si on veut être précis, si vous dire. En même temps, hier après-midi, il faisait 35 degrés, d'où ces températures chaudes sur le sud-est et surtout sur la Corse, mais on a 24 degrés à Toulon là en ce moment, il fait 22 à Nice. Donc des températures extrêmement douces sur le sud-est. Bon, pour les autres, c'est un peu plus calme, on va dire, avec 9 à Orléans, 13 à Paris, 12 à Lille. Pour les températures cet après-midi, bon, il y a une grande amplitude, entre 19 à Cherbourg et 32 à Montpellier. Et entre ces deux valeurs, il fera 20 à Brest, 21 à Caen, 25 à Lille, 26 à Paris. Les températures commencent à remonter, 27 à Toulouse, et 30 degrés à Marseille. Tout ça va se passer sous un ciel bleu, mais il va falloir patienter pour certains, parce qu'on a les traces du temps perturbé de ce week-end qui donne encore quelques passages nuageux et voire quelques gouttes de l'Alsace à la Franche-Comté jusqu'au nord des Alpes. On a aussi des passages nuageux sur les Pyrénées et puis de la Manche en allant vers la Normandie. Il y a quelques passages nuageux, parfois doublés de brumes et des brouillards, mais ces nuages, ces brumes et ces brouillards vont se dissiper pour laisser passer le soleil ou en tout cas de très belles éclaircies cet après-midi avec un petit peu de mistral et de tramontane pour la Méditerranée.
Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin avec toute l'équipe, Isabelle Saporta, Marina Marcialiou, Florian Gazan, bonjour à tous.
Bonjour.
Isabelle, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, veut interdire les écrans au moins de 3 ans.
Oui, écoutez, avant, il y avait un délai de décence auquel les ministres s'astreignaient entre la proposition d'une idée absurde et le moment où on se rendait compte que ça n'était pas applicable. Mais maintenant, c'est fini, tout est dans la même interview, c'est formidable.
Martial, la guerre entre l'Iran et Israël fait aussi craindre le pire pour l'économie mondiale.
Oui, ça fait 4 jours maintenant qu'on a un vrai risque de krach pétrolier. Si ça arrive, ce sera à cause du détroit d'Ormuz.
Marina, question après les 2 morts de ce week-end à Paris et dans les Yvelines. Quand les orages sont-ils les plus dangereux?
Alors, statistiquement parlant, eh bien, ce n'est pas lors des vigilances orange, il constate une étude de 10 ans sur les accidents liés à la foudre qui donne également les 3 endroits où il y a le plus de risques d'être touchés.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Début des épreuves de philo aujourd'hui pour les terminales, c'est le baccalauréat. Et moi ce matin, je vais faire un petit bilan des présidents de la 5ème République pour savoir qui a été le meilleur bachelier et le plus nul. Voilà.
On va se régaler. À tout à l'heure, vous écoutez RTL, il est 6h30.
RTL Matin avec Jérôme Florent.
Et on accueille Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous.
À la une ce matin, cette 4e nuit de frappes et de ripostes entre Israël et l'Iran.
Des frappes israéliennes sur Téhéran, des missiles iraniens tirés sur Jérusalem ou Tel Aviv. Les secours israéliens font état d'au moins 3 morts cette nuit alors que les pays du G7 se réunissent aujourd'hui au Canada. Dans ce journal aussi, le coup d'envoi du bac pour les élèves de terminale, c'est l'épreuve de philo ce matin. Des parfums à base d'urine ou de liquide antigel. Un rapport alerte ce matin sur les multiples dangers de la contrefaçon. Et puis un judoka français sacré champion du monde, et ça n'est pas Teddy Riner.
RTL Matin.
Et avant de vous donner les toutes dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, on voulait avoir une petite pensée ce matin pour tous ces ados et leurs parents qui se réveillent la boule au ventre. C'est le début du bac pour les élèves de terminale des filières générales et technologiques. 532 000 candidats vont plancher à partir de 8h ce matin et jusqu'à midi sur la philo. Après plusieurs jours de révisions intensives, parfois, il faut bien le dire, motivés par l'appât du gain, puisque certains ont réussi à négocier avec leurs parents un cadeau en cas de succès, Hortense Crépin.
Oui, alors il y a ceux qui préfèrent les cadeaux studieux.
Moi, ma maman, elle m'a promis 100 euros de livres. Donc, j'espère avoir une bonne note au bac de français.
Ou encore les élèves qui font monter les enchères.
200 euros et je les attends.
Et t'es sûre que tu l'as quoi qu'il arrive ou il y a une barrière
C'est à partir de 12 parce que je suis pas très très forte en français. J'ai 7 de moyenne, donc ça va être un peu dur, mais ça peut le faire.
Il y a aussi la promesse d'un vêtement, d'un bijou ou même d'un séjour.
Un voyage à Londres.
Et puis, il y a ceux qui jouent tout sur le bac.
Alors moi, mes parents m'ont dit que si j'avais pas le bac, j'avais pas en vacances en fait, donc donc oui, j'espère avoir le bac. Après, la mention, ça fait toujours plaisir, mais sinon pas de bac, pas de vacances. Hein.
Enfin, certains ont peut-être mal anticipé.
Non, j'ai pas négocié sur ce terrain-là, j'aurais peut-être dû. Non.
Mais il est encore temps de négocier, puisqu'il faudra attendre le 4 juillet pour connaître les résultats du bac.
Merci beaucoup Hortense Crépin.
Et on a deux parents autour de la tablée du petit matin dont les enfants passent le bac aujourd'hui.
Horrible.
C'est l'angoisse. quoi, Isabelle?
J'ai l'impression de le repasser, moi, c'est atroce.
Martial,
moi,
c'est
ça
pareil.
Ça va, c'est assez détendu. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus la pression.
Vous écoutez RTL, il est 6h30. On en vient maintenant, Sébastien, cette quatrième nuit de frappe en Iran et en Israël.
Hein. L'armée israélienne a ciblé ces dernières heures des lanceurs de missiles iraniens après avoir bombardé la capitale Téhéran, mais aussi la ville sainte de Mashhad, dans le nord-est. La République islamique a répliqué cette nuit en lançant de nouvelles salves de missiles sur Tel Aviv ou encore Haïfa, qui ont fait au moins 3 morts selon les secours. Et Léonore Veil, vous êtes la correspondante de RTL en Israël, où la vie est comme figée depuis vendredi face à ces frappes d'une intensité inédite.
École fermée, lieu de travail à l'arrêt, rassemblement public interdit, et l'espace aérien est également fermé. Impossible de quitter le territoire donc, ou d'y revenir. Une réalité brutale pour la population qui ces dernières semaines s'était presque habituée aux tirs de roquettes depuis le Yémen. À Tel Aviv, certains ne se donnaient même plus la peine de descendre dans les abris. Mais cette fois, la tension est d'un autre ordre. Les regards sont constamment rivés vers les téléphones et chacun suit les consignes avec précaution. À chaque riposte iranienne, le bilan humain et matériel alourdit un peu plus ce climat d'inquiétude. Et même si le soutien à cette guerre demeure important dans le pays, l'incertitude gagne aussi du terrain. Chacun ici comprend aujourd'hui que cette parenthèse dans laquelle le pays est plongé pourrait bien durer.
Et ces frappes ont donc fait au moins 16 morts depuis vendredi côté israélien, au moins 224 côté iranien. L'Iran paiera un prix très lourd, promet Benjamin Netanyahou, quand la République islamique affirme qu'Israël ne sera bientôt plus habitable.
Une escalade qui sera au cœur du sommet du G7 aujourd'hui au Canada.
Un sommet sous tension parce que les sujets qui fâchent sont nombreux. Et une fois de plus, Bénédicte Tassar, c'est Donald Trump qui se retrouve au centre du jeu.
Oui, Trump au cœur de toutes les attentions sur les tarifs douaniers, sur l'Ukraine surtout. Objectif, que l'Ukraine ne sorte pas des discussions. Les Européens arrivent avec un nouveau paquet de sanctions, mais le président américain sera-t-il d'accord pour une ligne dure, pour faire baisser le prix du pétrole russe et priver Poutine de sa manne financière. Trump, à qui le chef du Kremlin a souhaité samedi un joyeux anniversaire, fléchira-t-il dans les rocheuses de Kananaskis? Et puis le Moyen-Orient. Hier, le président américain suggérait le nom de Poutine comme médiateur entre Israël et l'Iran. Emmanuel Macron, pendant son étape au Groenland hier, voyait plus la balle dans la main de Trump.
Les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table. Surtout que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier. Je ne crois pas que la Russie puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Il va falloir bien du doigté, de la stratégie ici pour que la Maison-Blanche ne laisse pas tomber son rôle de gardien de la paix mondiale.
Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL au Canada. Dans le nord des États-Unis, la traque est terminée. L'homme de 57 ans, soupçonné d'avoir abattu ce week-end une élue démocrate du Minnesota et son époux, a été arrêté cette nuit sans l'usage de la force, précise à l'instant les autorités américaines.
Également à retenir ce matin, Sébastien, ce coup de tonnerre chez Renault.
Qui annonce par communiqué le départ surprise de son patron, Luca De Meo, qui avait pris la tête du constructeur il y a 5 ans. Il quittera ses fonctions le 15 juillet prochain et d'après nos confrères du Figaro, il doit devenir le prochain directeur général du groupe de luxe Kering, propriété de François-Henri Pinault.
Ce rapport à présent qui alerte ce matin sur le fléau de la contrefaçon.
Un rapport que vous avez pu consulter pour RTL, Sophie Neumeyer, et dans lequel l'Union des fabricants alerte sur les multiples dangers de ces produits contrefaits, parfois dangereux pour la santé, et qui constituent surtout une gigantesque source de revenus pour les organisations criminelles.
Oui, avec 4 500 milliards de dollars générés par an selon les estimations, la contrefaçon est devenue l'activité criminelle la plus rentable au monde. 31 organisations majeures, mafias ou cartels sont impliquées, parmi lesquelles la Camorra italienne. Produits de luxe, vêtements et médicaments contrefaits sont devenus sa deuxième source de revenus après les stupéfiants. À l'échelle de la France, le manque à gagner se chiffre à plus de 6,5 milliards d'euros et 38 000 emplois supprimés chaque année selon l'Union des fabricants qui, dans son rapport, alerte aussi sur les dangers sanitaires. Les produits contrefaisants sont souvent fabriqués à partir de substances dangereuses. Des analyses ont révélé que certains parfums contrefaits contenaient du liquide antigel, voire de l'urine. Alors pour y faire face, l'Unifab énonce 20 recommandations, parmi lesquelles le renforcement des peines, créer une unité spécialisée comme pour le narcotrafic ou encore instaurer une amende forfaitaire délictuelle pour punir la détention de contrefaçon.
Les précisions de Sophie Neumeyer.
Les sports et le carton du Paris Saint-Germain pour son entrée en lice au mondial des clubs de football.
Les Parisiens ont battu hier soir l'Atlético Madrid 4-0 deux semaines après leur sacre en Ligue des Champions. Et puis lui a été l'une des stars des JO l'été dernier, le judoka Joan Benjamin Gaba, qui avait été, souvenez-vous, décisif en finale de l'épreuve par équipe. Eh bien, il vient de décrocher son premier titre mondial en individuel chez les moins de 73 kilos en battant le Brésilien Carnin.
Je me sens très fier, c'est un long parcours et j'ai accompli ça et franchement c'était une journée de ouf, je prenais que des mecs forts et bah pour aller au bout c'est que à la tête, au mental, hein. J'étais fort dans la tête et c'est ça qui m'a amené jusqu'à cette médaille. Je sais pas, je me sentais bien et même physiquement j'étais une machine là aujourd'hui, je sais pas pourquoi mais bah en fait c'est la tête qui tire le corps, donc quand la tête elle marche bien, bah le corps il suit, c'est ce que j'ai pu voir aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir.
La Marseillaise pour Joan Benjamin Gaba, Sarah Léonie Sizik, elle a décroché le bronze chez moins de 57 kilos. Ça fait donc 3 médailles à ce stade pour la délégation tricolore au Mondiaux de Budapest.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Nicolas Sarkozy perd sa Légion d'honneur. Vous réagissez ce matin, décision prise après sa condamnation confirmée pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. Et on le rappelle Marina, cette exclusion de la Légion d'honneur est automatique quand un récipiendaire est définitivement condamné.
Oui, la majorité des auditeurs qui se sont exprimés sur le groupe Facebook RTL Petit Matin trouvent cette décision normale. Christophe dit le règlement est le même pour tout le monde. Même son de cloche de Pascal, c'est la loi, ancien président ou pas. On ne peut pas laisser la Légion d'honneur à un individu qui est condamné. Pour Annick, porter la Légion d'honneur et le bracelet électronique sont deux choses incompatibles. C'est un bijou de trop. Et parmi les défenseurs, il y a Jacques qui est choqué car il a été un très bon président, quoi que l'on en dise. Et pour d'autres auditeurs, on oublie qu'il a sauvé des enfants lors de la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly.
Merci Marina. Dans votre tablé du petit matin à suivre, notamment la ministre de la Santé qui veut interdire les écrans aux moins de 3 ans, c'est infaisable et pourtant elle veut le faire.
RTL. Mission décarbonation avec EDF.
La décarbonation des entreprises est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Bettina Lavaux, vous êtes responsable solutions énergétiques pour les entreprises chez EDF. Bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, comment EDF accompagne les entreprises dans leur décarbonation ?
Eh bien, chez EDF, nous nous engageons aux côtés des entreprises dans leur transition énergétique autour de 3 types d'actions. Réguler son activité pour consommer mieux et au bon moment, électrifier ses équipements et ses process, et produire sa propre énergie renouvelable et locale.
D'accord. Et alors, qui bénéficie de cet accompagnement et pour quel résultat ?
EDF propose des solutions adaptées à toutes les entreprises. Industrie, PME, tertiaire. L'objectif, c'est de réduire ses émissions de CO2 et maîtriser son budget dans la durée.
Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.
C'était Mission Décarbonation avec EDF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Açaïra, 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 chez Citroën, nous on ira. Açaïra, 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 nous ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon.
Canon, canon, canon.
Sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Açaïra, 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 des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cuisine Ixina présente son offre. Jusqu'à 6 électros offerts.
Ah super !
Oui, enfin c'est maintenant ou jamais. Hein.
Eh ben je pars là tout de suite.
T'es en pyjama chérie.
Bah tu veux que j'aille nu ?
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur Ixina.fr.
Ixina.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. Mon fameux plat maison vient de chez le traiteur. Je leur fais croire que je deviens sourde pour qu'ils arrêtent de me demander des choses. Et non, le chat n'est jamais parti en vacances.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors, rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Oh, RTL présente Sting sur scène dans The Last Ship. Une production musicale spectaculaire pour la première fois en France à partir du 18 février 2026 à la scène musicale à Paris. Infos et réservations en point de vente habituel. The Last Ship, écrit et composé par Sting. Un événement France Télévisions et RTL.
RTL.
RTL Matin.
Il est 6h42 sur RTL. Nouvelle nuit de bombardement entre Israël et l'Iran. Téhéran promet des frappes encore plus dévastatrices contre les cibles vitales d'Israël. Il y a eu au moins 3 morts cette nuit côté israélien. On se rend direct de Tel Aviv dans le journal de 7h. Et c'est dans ce contexte que les dirigeants du G7, dont Donald Trump, se réunissent au Canada. Aujourd'hui, le sommet a lieu jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'est la philo pour les candidats au bac général et technologique. Ils sont plus de 530 000. C'est de 8h à midi. Et puis, notez aussi ce changement de pilote en vue chez Renault. Le patron du groupe depuis 5 ans, Luca De Meo, quitte ses fonctions. Le dirigeant de 58 ans part pour le groupe Kering du milliardaire François-Henri Pinault. Nous sommes le lundi 16 juin, on est ensemble pour votre tablé du petit matin, votre concentré d'infos pour bien démarrer la journée. On va revenir sur une proposition étonnante de la ministre de la Santé dans un instant avec vous Isabelle Saporta, mais tout d'abord Martial Youw. Intéressons-nous aux conséquences économiques que pourrait avoir ce conflit qui semble parti pour durer. On suit évidemment l'évolution des tensions entre Israël et l'Iran avec un œil sur un point névralgique. Le détroit d'Ormuz.
Et oui, parce que c'est le point le plus sensible pour la stabilité économique mondiale en ce moment. Depuis la révolution iranienne de 1979, Téhéran menace en permanence de bloquer ce passage. Et s'il doit y avoir un krach pétrolier comme en 73 ou en 79, ce sera précisément à cause de ce détroit d'Ormuz.
C'est là que passe l'essentiel du pétrole et du gaz que nous consommons tous les jours.
Exactement. Entre Oman, l'Arabie Saoudite et l'Iran, vous avez chaque jour une vingtaine de pétroliers qui passent là, 21 millions de barils par jour, c'est un baril sur 5 consommé dans le monde. C'est 1 mètre cube de gaz liquéfié sur 4. La plupart des pays pétroliers du Golfe arabo-persique passent là. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar.
Et ça arrive ensuite chez nous.
Bien sûr, puisque c'est 30% du pétrole voyageant par bateau qui transite par ce détroit. Il y a aussi les hydrocarbures qui circulent évidemment par les oléos et les gazoducs, mais ce qui traverse le détroit d'Ormuz part ensuite aux États-Unis pour 7%, en Europe bien sûr, et puis surtout en Asie qui absorbe 76% de la production d'or noir du Golfe Persique.
C'est pour ça qu'il y a un risque de crise économique.
Oui, pour deux raisons. La première, c'est que si on ferme Ormuz, on réduit les livraisons de pétrole et on crée donc une pénurie mondiale qui va faire monter les prix. La deuxième raison, c'est qu'en Chine, 90% du pétrole chinois passe par le détroit. En Chine, vous avez encore beaucoup d'usines qui tournent grâce au pétrole et on risque d'avoir une réduction de la production, voire des arrêts qui feraient monter les prix de tout ce qui est made in China.
C'est risqué de passer par ce détroit ?
Oui, parce que selon l'agence Bloomberg, ces derniers mois, assurer le passage d'un pétrolier au détroit d'Ormuz, ça coûtait 500 000 dollars. Pour vous faire une idée, c'est déjà 10 fois plus qu'en 2019. Une mission internationale qui regroupe la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Italie, le Portugal, tout ça ensemble. Cette mission protège déjà d'ailleurs les bateaux des attaques dans la région.
Est-ce que les Iraniens, Martial, peuvent sérieusement fermer Ormuz ?
Oui, le détroit a déjà été en partie fermé pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Ce serait lourd économiquement pour le pays, parce que l'argent du pétrole représente plus de 10% du PIB. Mais ce serait un moyen radical de peser dans les négociations avec les Occidentaux parce que ça provoquerait immédiatement une crise économique mondiale et ça obligerait les pays occidentaux à trouver une solution.
Est-ce qu'on pourrait débloquer le détroit de force ?
Les Américains peuvent le faire, ils sont basés à Bahreïn, mais alors là, ça veut dire qu'ils entreraient directement dans le conflit armé et on risquerait alors une guerre beaucoup plus large entre les alliés d'Israël et puis les alliés de l'Iran.
Le pétrole pourrait monter jusqu'où si on ferme Ormuz ?
Alors ça, c'est très difficile.
Il avait bien commencé à baisser, là.
Je vous l'avais dit, c'était très très bien parti, mais c'est difficile à dire parce qu'il y aurait la pénurie, bien sûr, mais il y a aussi l'inquiétude, la spéculation, tout ça, ça ferait monter les prix. Mais on n'est pas, on n'en est pas là, en tout cas, parce que l'Iran a aussi besoin des pétrodollars, je vous le disais, pour faire la guerre. On est actuellement à 75 dollars le baril, à peu près. Certains experts annoncent une montée possible jusqu'à 120 dollars. Rien n'est moins sûr pour l'instant. Les pompes sont toujours approvisionnées en France. Et la France a, je le rappelle, 3 mois de stock devant elle.
Merci beaucoup, Martial Youw. Il est 6h46, vous écoutez RTL, c'est votre tablé du petit matin. On a une pensée pour tous ces candidats qui vont passer le bac philo tout à l'heure. C'est dans quoi, une heure et quart maintenant. Voilà. Et on vous dira d'ailleurs avec Florian Gazan dans quelques instants quel est le président de la République française qui a mieux réussi le bac philo. Restez avec nous. Isabelle Saporta, vous voulez revenir ce matin sur la volonté de la ministre de la Santé, du Travail et de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, qui veut interdire les écrans de 0 à 3 ans.
Oui, Madame la Ministre a annoncé solennellement dans une interview qu'elle a donnée au JDD que, je la cite, elle allait demander qu'aucun enfant ne soit exposé à un écran entre 0 et 3 ans partout, y compris à la maison. Sauf qu'à la ligne suivante, elle avoue son incapacité à mettre en œuvre cette même mesure, car, je la cite encore, elle ne serait pas chez les gens pour vérifier. Encore heureux, me direz-vous. Mais tout cela importe peu, car il n'est question, je la cite encore, que de donner des repères aux parents, d'insuffler l'idée que ça ne se fait pas. Avant, en fait, il y avait un délai de décence auquel les ministres s'astreignaient entre la proposition d'une idée absurde, même pétrie de bons sentiments, et le moment où on se rendait compte que ça n'était pas applicable, eh bien c'est fini, car désormais les ministres ne sont plus faiseurs, ils sont insuffleurs. Du coup, comment compte faire la ministre pour insuffler l'idée que ça ne se fait pas de coller les enfants de moins de 3 ans devant les écrans? Eh bien en publiant, urgemment, un arrêté interdisant les écrans dans les lieux d'accueil des enfants. Lieux d'accueil qui jamais, ni à la crèche, ni à la garderie, ni en première année de maternelle, jamais ne mettent les enfants devant un écran. Mais qu'importe. Madame la ministre va donc sortir un énième arrêté, un de plus donc, pour dire à tous ces professionnels que surtout, surtout, ils doivent continuer à ne jamais faire ce qu'ils ne faisaient déjà pas, c'est-à-dire coller les enfants devant les écrans. Et sinon, Madame la ministre va demander à la CAF et à l'assurance maladie, plombée par des déficits abyssaux, d'envoyer des courriers aux parents afin, je la cite encore, que personne ne puisse nous dire « je ne savais pas ».
Isabelle, vous trouvez ça donc complètement ridicule?
Oui, car ce n'est pas une protection que nous offre ce faux état nounou. Non, en nous parlant de manière infantilisante de tous ces dangers, petits ou grands, qui nous guettent, les politiques ne cherchent pas à nous en protéger, ils s'en savent incapables. Non, ils se couvrent toutes affaires cessantes, ils ouvrent en grand le parapluie de la parole.
Merci beaucoup Isabelle Saporta. Vous pouvez d'ailleurs nous dire, chers auditeurs, si vous trouvez cette proposition ridicule ou réaliste, pourquoi pas interdire les écrans en moins de 3 ans, vous avez la parole. Évidemment au 3210 et vous l'apprendrez dans RTL Midi avec Éric Brunet et Céline Landreau tout à l'heure. Marina, je me tourne vers vous. Ce week-end, deux personnes sont décédées suite aux orages dans les Yvelines et à Paris. Les deux départements étaient placés en vigilance orange. C'est plutôt rare des accidents en raison d'orages lors de vigilance orange.
La vigilance orange fait son effet en fait. Les gens font plus attention et évitent les activités à l'extérieur. Les manifestations sportives ou festives de plein air sont annulées. C'est une bonne chose, ça évite des catastrophes, même si comme on l'a vu ce week-end, ça arrive. Mais par conséquent, 82% des accidents humains, décès ou blessures liés à la foudre se passent lors d'une vigilance jaune. C'est ce qui ressort d'une étude de Météorage, le réseau de détection de la foudre en France et en Europe. Deux météorologues ont analysé sur 10 ans l'accidentologie humaine par la foudre. Par temps d'orage, ce qui différencie une vigilance jaune d'une orange, c'est que l'orange est mise en place quand les orages sont vraiment en majorité sur le département, de nombreuses villes, alors qu'une vigilance jaune, ce sera plus un phénomène localisé. Mais un éclair reste un éclair, qu'on soit en jaune ou en orange, il y a le même effet sur le corps humain. Retenez une chose, si vous avez un orage chez vous, attendez 30 minutes après le dernier coup de tonnerre pour sortir. C'est la petite astuce pour être sûr que l'orage est bien terminé.
Et dans cette étude, on apprend qu'on a plus de risques d'être foudroyé sur son lieu de travail qu'en randonnée. Oui. Alors ça, c'est étonnant.
En effet, 19% des accidents liés à la foudre se passent sur le lieu de travail, contre 13% au cours d'une randonnée. Bon, ce sont surtout les travailleurs du BTP qui sont impactés, évidemment. Mais le lieu de travail n'a pas la première place. Il est en deuxième position des endroits où se déroulent les accidents par la foudre.
Quel est le premier alors?
Eh bien, ça reste les espaces publics. 21% des accidents se passent dans les parcs, les forêts et les jardins publics. Et il y a un autre constat lié à cette étude, c'est que si vous êtes un homme d'une quarantaine d'années, vous avez plus de risques d'avoir un accident lié à la foudre. Alors, l'étude ne donne pas d'explication à cela, mais c'est le constat de ces 10 années d'études. Les deux tiers des personnes mortes sont de sexe masculin, ayant majoritairement une quarantaine d'années, pratiquant une activité de loisir, près de 3 cas sur 5.
C'est étonnant ces chiffres. Merci beaucoup Marina. On souhaite bon courage donc à tous les candidats au bac aujourd'hui. Bac philo, l'épreuve commence à 8h tout à l'heure, c'est jusqu'à midi. Florian Gazan, ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Emmanuel Macron est le meilleur président de la 5e République.
Oui, niveau baccalauréat, je précise. Niveau popularité, on sait qu'il est en dessous de la moyenne, mais là, au bac, il surnage en comparaison de ses prédécesseurs à l'Élysée, qui n'ont pas tous été brillants à l'examen, loin de là. Le pire ayant été Nicolas Sarkozy.
Mais il n'a pas raté son bac quand même.
Ah non, mais il a galéré pour l'obtenir. C'était en 1973, un bac sciences économiques et sociales bouclé avec 142 points sur 300, donc en dessous de la moyenne, avec notamment un 7 sur 20 en français, un 8 sur 20 en maths et un 9 sur 20 en philo. Il a fini par décrocher son bac au rattrapage, mais il a déjà à l'époque frôlé la correctionnelle. Ceci dit, Charles de Gaulle, le grand Charles de Gaulle, pour lui aussi, le bac, ça a été un peu la chienlit.
Il a eu combien?
Alors là, il s'en bac mathématiques avec 11,5 de moyenne, avec notamment un joli 4 sur 20 en sciences physiques, où apparemment, en rendant sa copie, il a dû dire « Je n'ai rien compris !» Pas génial non plus, Georges Pompidou, Jacques Chirac et François Hollande, mention assez bien seulement. Quant à François Mitterrand, s'il a eu un bac littéraire à 17 ans, il s'était totalement raté à l'oral de français un an avant. Blocage devant l'examinateur, il avait à peine réussi à balbutier quelques mots. Cet échec raconté dans son autobiographie, il en faisait encore des cauchemars une fois à l'Élysée, dit-il. Mais donc, le bachelier le plus performant, c'est Emmanuel Macron.
Et alors, il a eu quelle note, Emmanuel Macron ?
Alors, il a passé son bac S, le bac le plus dur hein, à l'époque, à 17 ans. Pour l'anecdote, cette année-là, 1995, le ministre de l'Éducation, c'était François Bayrou. Le jeune Macron l'avait attaqué avec pas mal de points d'avance, puisque l'année précédente au bac français, il avait eu 18 à l'écrit et 19 à l'oral. Bon, il aimait déjà le français et les profs de français, surtout, évidemment. Et résultat, il a décroché son bac avec mention très bien, avec un 16 en philo, grâce à sa dissertation sur le thème « Peut-on être ?» indifférent à la vérité, et cette appréciation du correcteur retrouvée par Philosophie Magazine, je vous cite. Vous avez un vrai art de la synthèse. Attention toutefois à ne pas vouloir toujours tout réconcilier. Attention également à ne pas confondre une dissertation et une profession de foi, c'est maladroit. Vous ferez peut-être un bon philosophe à condition de ne pas vouloir être trop politique. Preuve que déjà à l'époque, Emmanuel Macron donc n'écoutait pas trop ce qu'on lui disait.
Merci beaucoup Florian Gazan. On vous offrait ce matin, Marina, un beau séjour.
Une escale découverte à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest au Sableux d'Olonne en Vendée. C'est 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes en plus avec des soins d'hydrothérapie. Oh yeah. Et c'est Maxime qui a gagné. Il habite Bouclan dans le Doubs. Il va donc traverser la France d'Est en Ouest. Bon, il a l'habitude, il est chauffeur routier.
Très bien, bravo connaît. À lui. Et bravo. Une bonne nouvelle, c'est qu'on va jouer toute la semaine, évidemment, dans les petits matins. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Il fait chaud ce matin.
Oui, il fait chaud et puis
dans
surtout,
sud-est, hein.
Il va y avoir du soleil partout aujourd'hui.
Votre matinale se poursuit dans un instant avec Amandine Bégaud et Thomas Soto. Thomas Soto qui recevra à 7h40 le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella.
RTL. Les ados peuvent télécharger toutes sortes d'applications depuis les App Store, y compris celles qui ne sont pas adaptées à leur âge. C'est pourquoi Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store. Plus d'infos sur instagram.com/accordparental.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau. Ah non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
RTL Matin. À l'écoute des entreprises avec Harmonie Mutuelle. La santé des entrepreneurs et de leurs équipes est essentielle à la performance de l'entreprise. Harmonie Mutuelle lance le mouvement de l'éco-santé. Jérôme Decrillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur prévention et services chez Harmonie Mutuelle. Alors, qu'est-ce que l'éco-santé ?
Eh bien, c'est une nouvelle façon d'aborder la santé. C'est notamment préserver la santé mentale et physique des dirigeants et des salariés pour réduire l'absentéisme et renforcer l'engagement.
Et quelles solutions concrètes proposez-vous ?
On agit de façon préventive plutôt que curative, avec par exemple des formations et des actions de prévention adaptées pour maintenir les salariés en bonne santé.
C'est un vrai bénéfice pour les entreprises ?
Bien sûr. Avoir un patron et des équipes en bonne santé, c'est moins d'arrêt de travail et donc une meilleure performance dans l'entreprise.
Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur harmoniemutuelle.fr.
Merci Jérôme.
RTL. Place à des vacances sans nuages avec Homer. 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com.
Homer.
Louis, donc du soleil partout aujourd'hui.
Eh oui, exactement. Hein. Hier, n'oublions pas que dans l'Est, on avait encore des averses, parfois des orages. Tout cela a disparu en cours de nuit. Et ce matin, oui, il reste encore un peu d'humidité liée à cette activité, avec quelques nuages dans le nord-est. Il en reste également près de la Manche. Mais petit à petit, c'est bien le soleil qui va largement s'imposer. Quelques passages nuageux près de la Manche ou encore dans le nord-est pour faire beau, mais ça n'ira pas plus loin. Il n'y a que dans les Alpes du Sud où il y aura peut-être un petit risque d'averse en fin de journée. Et puis attention au Mistral, hein, qui soufflera dans la vallée du Rhône. Mistral plus chaleur, c'est pas forcément très agréable. Du côté d'Avignon, hein, on a déjà en ce moment 70 km/h. Et puis les températures, elles vont repartir à la hausse. Alors ce matin, on a 29 degrés à Calvi, 24 à Toulon en ce moment. Bon, 7 degrés à Reims, à Guéret ou encore 8 à Beauvais, à Romorantin. Là, on respire, mais cet après-midi, donc, ça remonte partout. 19 à 22 degrés près de la Manche, 23 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 27 à 30 degrés dans le sud. 32 à Montpellier.
Et ça va durer comme ça toute la semaine?
C'est
le début du retour de l'été?
Exactement. L'anticyclone s'installe sur la France toute la semaine, avec donc du soleil et de la chaleur, parce que les températures vont de nouveau atteindre les 30 degrés assez facilement dans la moitié nord et parfois un peu plus dans le sud.
On aime bien quand vous nous parlez comme ça, cher Louis.
Ah oui, c'est l'été.
Merci à vous, merci à toute l'équipe. On va retrouver Amandine Bégaud et Thomas Soto maintenant. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour messieurs, dames. Comment ça va?
Ah, très très bien. Vous avez passé un bon week-end?
Excellent.
On s'est bien reposé.
Fort bien. Et on est bien content de vous retrouver pour attaquer cette jolie semaine. Bonne journée, on vous retrouve demain matin.
Bonne journée, bonne émission.
Bonjour Amandine.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Entre Israël et l'Iran, ça ressemble de plus en plus à une guerre. La nuit qui s'achève a encore été marquée par des frappes de part et d'autre. Côté israélien, on parle d'au moins 4 morts, on y reviendra bien sûr dès le début du journal de 7h avec William Galibert.
Le régime des Mollahs peut-il tomber? Est-ce vraiment d'ailleurs l'objectif de Benjamin Netanyahou, alors qu'on cherche encore à comprendre le vrai but de cette offensive israélienne? Je reçois tout à l'heure Frédéric Ancel, spécialiste de la région et de ses enjeux. Il sera en direct avec nous à 8h15.
Et puis, quel doit être le rôle de la France sur ce nouveau front? On posera la question à l'homme qui aspire à gouverner le pays. C'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui sera l'invité d'RTL Matin. Ce sera à 7h40.
RTL, plus que jamais au cœur de vos préoccupations, de votre quotidien. À 8h40, le docteur Jimmy Mohamed nous conseillera ce matin de donner du poisson à nos enfants. Et oui, figurez-vous que ceux qui n'en mangent pas assez sont moins empathiques que les autres.
Il nous expliquera tout ça. Et puis un hommage, un bel hommage, celui que Pascal Obispo rend à Johnny Hallyday avec cette chanson inédite.
Appelle-moi Johnny, comme si j'étais un grand frère, à l'école buissonnière, où l'on a tout appris. Appelle-moi Johnny.
Appelle-moi Johnny, Pascal Obispo, qui sera en direct donc avec nous à partir de 9h40. Et il nous interprétera ce nouveau titre en direct dans le studio d'RTL Matin.
Vous pouvez d'ailleurs lui poser vos questions au 64 900. Petit message en commençant par le mot matin. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer aussi vos réactions sur l'actualité. Nous sommes le lundi 16 juin 2025. Merci de vous réveiller avec RTL. Il est bientôt